Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand voulait rendre hommage à un grand monsieur pour commencer cette émission. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. J'ai appris ce matin la nouvelle du décès d'un monsieur que j'avais grand plaisir à recevoir ici même. Il était venu il y a quelques mois, Bob Maloubier. Était agent secret, il était aventurier, un des grands témoins de la dernière guerre notamment. Il racontait tout cela avec beaucoup d'humilité et avec un humour tout britannique. Évidemment, toutes nos meilleures pensées vont à sa famille.
Et aujourd'hui, c'est d'un autre grand monsieur dont vous nous parlez.
Eh bien, c'est un grand monsieur à tout point de vue, puisqu'il s'agit de Charles de Gaulle. Nous allons évoquer une partie relativement méconnue de la carrière du général, celle qui va de son retour sur le territoire en août 1944 à son départ du pouvoir au creux de l'hiver 1946. Après quoi, en compagnie d'Henri Guénaud, nous reviendrons sur les thèmes de prédilection du général de Gaulle à travers des textes de sa plume réunis dans un ouvrage qui est une ode à la pensée gaullienne.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Laure qui souhaitait connaître les origines mythologiques de l'expression « tomber de Charybde en Scylla ».
Exactement, et bien nous répondrons évidemment à Laure. J'espère que cette expression ne s'appliquera pas à l'émission d'aujourd'hui. La parole est pour le moment au général de Gaulle.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
Il est 16h ce 25 août 1944, nous sommes dans le sud de Paris, une voiture noire roule à vive allure, c'est la voiture du général de Gaulle qui est en train de remonter l'avenue d'Orléans, l'actuelle avenue du général Leclerc. Elle remonte jusqu'à l'église de Montrouge, jusqu'à Alésia si vous voulez, et c'est là que le général ordonne soudainement au chauffeur de changer d'itinéraire. Il est attendu à l'hôtel de ville, il est attendu par le comité parisien de libération et par le conseil national de la résistance. Seulement, avant de s'y rendre, et ça il faudrait qu'il prenne à droite, hein, à droite de l'église, il va faire bifurquer à gauche pour se rendre à la gare Montparnasse où se trouve le PC du général Leclerc. Le général de Gaulle entend en effet connaître tous les détails de la situation. Il voudrait que le général Leclerc lui rende compte de son entretien avec le gouverneur allemand de Paris, le général von Scholtitz, qui vient de rendre les armes. Il faut vous dire que une demi-heure plus tôt seulement, Leclerc faisait signer l'acte de capitulation au général allemand. Pour le général de Gaulle, ce sera aussi un moment particulièrement émouvant, puisqu'il va retrouver son fils, Philippe, qui se trouve là, dans la garde d'honneur, justement à la gare Montparnasse. Cette reddition des Allemands, cette signature du général von Scholtitz au bas de l'acte de reddition est essentielle. Ça scelle le destin de la capitale. Désormais, Paris est libre. Le matin même, le général Leclerc et ses chars de la 2e DB entraient par cette même porte d'Orléans, bien entendu. Et on peut dire que les combats, qui étaient déjà bien avancés depuis plus de 3 jours, ces combats s'étaient concentrés à ce moment-là autour des bâtiments où étaient retranchés les Allemands. En quelle qualité le général de Gaulle entre-t-il ainsi, si je puis dire, en vainqueur dans Paris quasiment libéré? Eh bien, depuis le 3 juin précédent, le général de Gaulle est officiellement président du gouvernement provisoire de la République française. Gouvernement provisoire formé à Alger, bien entendu. Alors, il est aussi, et ça depuis 1940, le chef de la France libre. Et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec Henri Guénaud. Mais il est évident que la position qui est la sienne aujourd'hui est une position tout à fait officielle. Ce gouvernement provisoire est une émanation du Comité français de libération nationale. Et le général de Gaulle, à bord du torpilleur La Combattante, avait déjà posé le pied en France dès le 14 juin. Le débarquement américain, enfin anglo-américain, sur les plages normandes, c'est à partir du 6 juin. Et dès le 14, le général de Gaulle était à Courseulles-sur-Mer. Il s'était rendu immédiatement à Bayeux, la première ville française libérée. Et il avait prononcé un discours de mobilisation et d'espoir. Alors ça n'est pas ce qu'on appelle le discours de Bayeux. Le discours de Bayeux, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, à la fin de ce récit, et c'est tout autre chose, c'est un véritable programme. c'est une autre affaire. Pour l'instant, on chante la Marseillaise et évidemment pour le général de Gaulle, on est dans un moment tout à fait essentiel parce que pour l'instant, il était une figure assez lointaine, une figure londonienne, une figure algéroise qui, d'un seul coup, est là sur le territoire et va pouvoir se confronter à la population française. Quand je dis se confronter, il va surtout pouvoir mesurer l'extraordinaire popularité qui est la sienne. Alors, avant de s'exprimer à l'hôtel de ville où tout le monde l'attend, le général veut faire deux arrêts. D'abord, à 17h, il s'arrête rue Saint-Dominique au ministère de la Guerre, qu'on appelle nous aujourd'hui le ministère de la Défense. Il se rend dans ce qui était son ancien bureau, juste au moment de la campagne de France, au bureau qu'il a occupé vraiment jusqu'au dernier moment en juin 1940, en tant que sous-secrétaire d'État à la Défense. L'idée, c'est de renouer la chaîne du temps, c'est de montrer la continuité de la République française, en dépit du chaos des quatre dernières années, bien entendu. Et puis, il va faire un deuxième arrêt qui, sur un plan historique, est extrêmement important. C'est à la préfecture de police pour passer en revue les forces de l'ordre, accueil en fanfare, là encore, on joue la Marseillaise, la marche lorraine, etc. Très important, car n'oubliez pas qu'en août 1944, la question de l'ordre public est absolument centrale. Qui va prendre véritablement le pouvoir dans cette France de la libération? On se pose encore la question, bien entendu. À 19h15, le général apparaît donc vraiment aux Parisiens, si je puis dire. On avait beaucoup entendu sa voix à Radio Londres, mais là on le découvre d'abord beaucoup plus grand que tout ce qu'on imaginait. Droit, uniforme kaki, sans décoration, si ce n'est deux insignes encore inconnus des Français. L'insigne des Français libres, la croix de Lorraine rouge bordée de blanc, inscrite dans un losange bleu. Et puis l'insigne des forces terrestres de la France libre, épée rouge sur fond blanc, encerclée de deux ailes bleues. L'ovation qui l'accueille est tout à fait extraordinaire. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette scène a bien failli ne pas avoir lieu, car malgré la joie procurée par la libération de Paris, deux forces politiques s'opposent à cette époque. Il y a bien sûr le général de Gaulle avec son gouvernement provisoire, mais il y a aussi ce CNR, ce comité de résistance, emmené par Georges Bidault, qui joue un rôle absolument essentiel. Autrement dit, les résistants de l'intérieur et les résistants de l'extérieur. Je ne vais pas entrer ici dans un débat que nous avons eu un certain nombre de fois à ce même micro sur les forces en présence dans la résistance et dans la libération, mais comprenez bien en tout cas que rien n'est tout à fait joué pour le moment. Pour de Gaulle, être reçu par le CNR, c'est accorder ce serait leur accorder, si je puis dire, le crédit de la victoire. Il souhaite au départ recevoir, lui, les représentants, rue Saint-Dominique, avant de se rendre en cortège à l'hôtel de ville. C'est sa façon d'asseoir le statut tout nouveau de président du gouvernement provisoire qu'il est devenu. Face au refus du CNR, incapable de décevoir la foule qui est là, déjà depuis plusieurs heures sur le parvis de l'hôtel de ville, le général de Gaulle va finalement plier. C'est là qu'on le découvre beaucoup plus souple qu'on ne pourrait imaginer. Il est reçu de façon solennelle, bien sûr, par le comité, et il va s'exprimer. « Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, dit-il, hommes et femmes qui sommes ici, chez nous, dans Paris, debout, pour se libérer et qui a su le faire de ses mains ?» Fondamental, d'insister là-dessus, bien entendu. « Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres vies. » Alors, c'est le moment de la célèbre déclaration, c'est Paris libéré, etc., etc. Paris mais libéré avec le concours de la France entière, dit le général de Gaulle, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Et si ces mots-là étaient en quelque sorte le résumé même de ce qu'on appellera un jour la doctrine gaullienne.
Claude Debussy sur Europe 1 avec la mer. Vous restez avec nous sur Europe 1. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire d'un grand homme d'État français, Franck Ferrand, vous nous parlez de Charles de Gaulle à la Libération.
Évidemment, le général de Gaulle se doit d'incarner cette France qui a subi quelques tribulations depuis quelques années. Il en appelle d'emblée à l'unité nationale. Après son discours, d'ailleurs, ça c'est très intéressant, Bidault avait proposé au général de se rendre au balcon, l'hôtel de ville, pour proclamer la République. Et le général de Gaulle a dit, mais pas du tout. La République n'a jamais cessé d'être. La France libre, la France combattante, le Comité français de la Libération nationale l'ont tour à tour incorporé. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. Le gouvernement provisoire, il faut vous le dire, a déjà à l'époque adopté, c'était à Alger, un certain nombre d'ordonnances en ce sens. Je pense notamment à l'ordonnance du 21 avril 44 qui prévoyait la restauration de l'État sur des bases républicaines. Alors le lendemain, 26 août, bon ça on connaît forcément, ça fait partie maintenant du socle fondateur de notre République. C'est tout ce grand défilé de la victoire sur les Champs-Élysées. C'est très symbolique là où les nazis avaient défilé si peu de temps avant. C'est la mer, écrira le général dans ses mémoires. Une foule immense est massée de part et d'autre de la chaussée, peut-être 2 millions d'âmes. Les toits aussi sont noirs de monde. À toutes les fenêtres s'entassent des groupes compacts, pêle-mêle avec des drapeaux, écrit-il. Des grappes humaines sont accrochées à des échelles, des mâts, des réverbères. Si loin que porte ma vue, ce n'est qu'une houle vibrante dans le soleil, sous le tricolore. Alors il y a là, bien sûr, des chefs de la résistance, les chars de la 2e DB, bien sûr, les membres du gouvernement provisoire. On ranime la flamme du soldat inconnu et on va défiler comme ça. Ça va se finir à Notre-Dame où résonne un magnificat extraordinaire. Alors je n'entre pas d'ailleurs sur les circonstances de ce magnificat qui pose une question historique, mais enfin, toujours est-il que là, l'égalité est là. Le général de Gaulle a officiellement repris le pouvoir. Mais le pouvoir dans un pays dévasté, dans un pays divisé où tout est à refaire. Imaginez l'allure que la physionomie que présente un certain nombre de nos villes, littéralement rasées par des bombardements intensifs. Il y a toujours 2 millions de prisonniers qui, à l'heure dont on parle, sont toujours en Allemagne. L'occupation a divisé les gens, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on voit à quel point elle continue à nous diviser, nous, vous imaginez ce que ça pouvait être en 1945. Elle a affaibli l'économie dans des proportions phénoménales. La guerre n'est pas terminée. Il faut rester sur le pied de guerre. On est sur le front des Vosges maintenant. Il va falloir avancer jusqu'à l'Allemagne, etc. Bref, le 9 août, on avait adopté une première ordonnance instituant le rétablissement de la légalité républicaine. La forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit, celle-ci n'a jamais cessé d'exister. Et on précisait que les lois et les règlements du gouvernement de Vichy, du régime de Vichy, étaient abrogés. Et c'était également la nullité de tous les actes postérieurs à la chute du dernier gouvernement le 16 juin 1940. Comme si l'on mettait entre parenthèses cette période. Ça c'est pour la scène intérieure, si je veux dire, mais il y a évidemment une diplomatie à mener. Il faut retrouver un certain statut sur la scène internationale, rétablir l'image de la France d'une certaine façon. Une France qui peine à maintenir son statut face aux puissances gigantesques que sont devenues entre-temps. Bon, les États-Unis c'était déjà largement le cas, mais l'Union soviétique et puis certes toujours le Royaume-Uni incarné par Churchill. De Gaulle va mettre en avant la résistance, il va occulter littéralement et la collaboration pour essayer d'incarner justement cette légalité, cette légitimité française. Il a nommé, ça s'il faut le dire, il a nommé Georges Bidault ministre des Affaires étrangères. Et il s'agit de faire reconnaître le fameux GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Les alliés attendent l'organisation d'élections régulières. Le problème, c'est qu'il faut attendre le retour des prisonniers. La France ne veut pas rester dans une situation d'entre-deux. Il ne faut pas oublier la difficulté des relations, puisque je parle de diplomatie, des relations entre De Gaulle et Roosevelt en particulier, et puis accessoirement avec Churchill, qui n'avait même pas voulu l'intégrer aux préparatifs du débarquement, rappelez-vous. Il va finir par apprendre ça l'avant-veille, même en fait, disons, la veille du jour J, en même temps que l'intention des États-Unis de placer en France une administration anglo-américaine, le fameux AMGOT, donc on revient de loin, si je puis dire. Finalement, le 23 octobre 1944, je dis bien le 23 octobre, je vous parlais du 25 et 26 août tout à l'heure, hein, le 23 octobre est reconnu le gouvernement provisoire, donc ça c'est une reconnaissance officielle par les gouvernements alliés. Le gouvernement français est satisfait qu'on veuille bien l'appeler par son nom, dit le général de Gaulle. Et dès le 11 novembre, le GPRF est invité à proposer un représentant français pour siéger à la commission consultative européenne aux côtés des alliés. Ça n'empêche pas qu'à la conférence de Yalta, qui va avoir lieu en février 1945, la France n'est pas représentée. Alors, pour être tout à fait exact, elle est représentée, mais elle n'est pas représentée par des membres du gouvernement souverain de la France. C'est Churchill, ce sont les Anglais qui parlent pour nous, si je puis dire. Staline, du reste, lui-même, ils étaient trois à contrôler le pays. Hein. Ils ne souhaitent pas multiplier le nombre d'intervenants, accorder une zone à la France dans la zone d'occupation allemande. C'était pour les Russes aussi ennuyeux que pour les Américains. Il va falloir là que Churchill se batte. Il y a ensuite la fameuse conférence de Potsdam en mai 45, qui prépare la capitulation de l'Allemagne et qui va tirer toutes les conclusions de la guerre. Conférence de Potsdam, je vous dis en mai, non, c'est en juillet 45. Les alliés se réunissent de nouveau sans la France pour délibérer. Vous voyez que tout ça n'est pas du tout une évidence, bien entendu. Alors, il faudrait parler du voyage du général de Gaulle à Moscou, il faudrait parler de toute cette restauration de la diplomatie française, mais ça ne s'est pas fait facilement. Et si la France retrouve son statut de quatrième grand, on peut dire que ça n'aura pas été très facile. Alors, arrivent les élections d'octobre 45, on est bien maintenant en octobre 45, élection législative du 21 octobre, l'Assemblée élue sera constituante, ça c'est fondamental, on va créer une nouvelle constitution. Or, non seulement la gauche est majoritaire, mais le Parti communiste, le PCF, récolte 26% des suffrages. Et les discussions semblent s'orienter vers un régime parlementaire, et que dis-je, vers un régime d'assemblée. Ça ne plaît pas du tout au général de Gaulle, et il va bientôt le faire savoir.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et nous vous invitons, chers auditeurs, à réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, la page Facebook de l'émission, par mail également, europe1.fr. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, et nous retournerons au cœur de l'histoire de Charles de Gaulle après la libération.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Le général de Gaulle est au cœur de l'histoire et nous retournons avec vous, Franck Ferrand, à la fin de l'année 1945, lors de la préparation de la 4e République.
Oui, et les constituants qui sont en train de préparer le texte de cette 4e République, issue des urnes d'octobre 45, se dirigent clairement vers un régime d'assemblée, un régime dans lequel le président de la République jouerait un rôle infime. Tout ça ne convient pas au général de Gaulle et il va en tirer toutes les conclusions. Le 20 janvier 1946, c'est un dimanche, il a convoqué ses ministres au ministère de la guerre, rue Saint-Dominique. La convocation est pour midi, donc tout le monde est arrivé un petit peu avant, vers 11h30. On entre dans la salle des armures. C'est bizarre parce qu'habituellement, les réunions du cabinet se font à Matignon, bien entendu, à l'hôtel Matignon. Et là, c'est, si je puis dire, chez le général lui-même, rue Saint-Dominique. Sur les 19 ministres convoqués, 3 manquent à l'appel. Il y a Soustelle, ministre de l'Outre-mer, parce qu'il est en mission au Gabon. Vincent Auriol et Georges Bidault, respectivement ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, qui représentent la France à l'époque à la conférence de Londres. Donc ils ne peuvent pas être là. L'ambiance est glaciale dans cette salle des armures. Les conseillers s'étonnent. Rien n'a été préparé pour la tenue d'un conseil. Il n'y a pas de feuillet, il n'y a pas de sous-main, il n'y a rien. Et voilà le général qui arrive à midi, pile, comme prévu. Il entre le dernier, bien entendu, et tout de suite, il entre dans le vif du sujet. « Messieurs, ma mission est terminée. » C'est vraiment une douche froide incroyable pour le gouvernement, qui ne s'y attendait pas, en tout cas pas dans ses formes. « Le régime exclusif des partis a reparu, je le réprouve, » dit le général de Gaulle. Mais à moins d'établir par la force une dictature que je ne veux pas et qui sans doute tournerait mal, je n'ai pas les moyens d'empêcher cette expérience. Le terme n'est pas neutre. Le choix des mots par le général de Gaulle est toujours très précis et souvent savoureux. Nous aurons l'occasion de le constater dans le cours de cette émission. L'intervention dure 7 minutes en tout et le général conclut « Ma décision prend effet aujourd'hui même ». Vous imaginez tous ces ministres qui s'imaginaient aller gentiment déjeuner le dimanche et passer l'après-midi à la campagne. Ah non, c'est terminé. Le gouvernement est dissous. Le général n'a accordé aucun droit de réponse. Il se retire aussitôt. Les ministres sont là, bras ballants, et à l'étage au-dessus, on entend déjà les secrétaires qui sont en train de déménager le bureau du général. On est en train de faire les cartons. Jacques Dumaine, qui était chef du protocole, raconte « La surprise est complète et déjà presque rageuse. La France entière se frotte les yeux d'étonnement et nulle explication ne l'insatisfait. Les circonstances de l'événement augmentent encore l'énigme. Dans sa lettre de démission au président de l'Assemblée, le général de Gaulle a fait valoir que l'amélioration de la situation générale lui permettait de se retirer, ce qui irrite narquoisement l'opinion. » On ignore les motifs réels de la crise, les conjectures ne sont pas favorables au général et le désenchantement est proche. Les sycophantes soupirent sur son départ prématuré, les adversaires crient à la dérobade. On est le 26 janvier et formé immédiatement un nouveau gouvernement dont le président du conseil sera Félix Gouin. Et le 5 mai, le projet de constitution qui avait été présenté au peuple va être rejeté par référendum. Oh, c'est reculé pour mieux sauter. Ça, le général l'avait compris. Il ne voulait pas du régime de la 4e République et il va l'exprimer très clairement en juin 1946 à Bayeux. C'est cela qu'on appelle le discours de Bayeux. Bonjour Henri Guénaud. Avec vous, dans un instant, nous allons revenir sur le discours de Bayeux et sur tout le reste.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Charles de Gaulle est au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, le député Henri Guénaud, qui publie un recueil de citations avec la Fondation Charles de Gaulle au présent, paru chez Le Cherche Midi.
De Gaulle au présent, mais pour nous, si vous le voulez bien, Henri Guénaud, ça va rester un tout petit peu au passé, parce que j'aimerais évoquer un certain nombre des épisodes de la carrière du général, avant d'en venir à ces grandes déclarations, assez surprenantes et assez neuves, effectivement. C'est étonnant, parce qu'on a l'impression de tout savoir du général de Gaulle, et quand on revient au texte, on découvre que le personnage est beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé qu'on aurait pu l'imaginer. Il est assez inattendu, parfois.
Il est souvent inattendu, il disait, coutume de dire, d'ailleurs il n'y a qu'un révolutionnaire ici, c'est moi. C'est ça, et c'était assez vrai, c'est l'homme à la fois de la tradition, l'homme de l'ordre, l'homme de l'autorité et l'homme de la transgression. Il ne cessera toute sa vie de transgresser. Il transgresse par rapport à son milieu sous la doctrine militaire pendant l'entre-deux-guerres. Il transgresse avec la discipline en partant à Londres en juin 1940. Il transgresse tous les codes de la vie politique ensuite. Il transgressera en gouvernant la 5e République aussi bien sur l'économie, les institutions, à la politique étrangère, voilà, avec des transgressions que d'ailleurs tout le monde ne comprendra pas toujours.
Ou avec beaucoup de retard parfois.
Ou avec beaucoup de retard ou jamais, quand il va au Québec et qui déclare vive le Québec libre.
1967.
La plupart des gens à l'époque, enfin des élites dirigeantes, en particulier diplomatiques, ont pensé qu'il était gâteux et qu'il était temps de le mettre à la retraite. C'était incompréhensible. Voilà.
Alors, deux ou trois mea culpa, c'est Michel qui me dit « Bayeux n'est pas la première ville française libérée parce que la Corse est un département métropolitain. » Et donc la Corse, elle, était libérée dès octobre 1943, c'est vrai.
Exact.
J'aurais donc dû dire sur le continent que c'était la première ville libérée. D'ailleurs, le général de Gaulle avait déclaré « La Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France. » Et puis alors, pas mal d'auditeurs me disent « Attention, ce n'est pas un Magnificat, mais un Tédéum qui a été chanté en 1945 à Notre-Dame. Les deux, mon général, si je puis dire. Alors, bien sûr qu'il y avait un Tédéum, comme pour toutes les victoires, mais il y avait aussi un Magnificat. Alors, le général de Gaulle va quitter le pouvoir en janvier 1946, à la stupéfaction de ceux-même qui participent à son gouvernement. Ce gouvernement avait beaucoup fait, quand même, pendant 18 mois. Il avait été plus qu'actif.
Il a accompli une œuvre extraordinaire sous la direction du général de Gaulle. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, les difficultés considérables auquel ce gouvernement s'est trouvé confronté au moment de la libération. D'un côté, les Américains qui veulent installer une administration militaire sur le territoire. Vous avez des armes qui circulent partout, des maquis, des gens qui ont pris l'habitude dans la clandestinité de vivre en dehors de toute loi, de toute règle, et qui peuvent tenter un coup de force du jour au lendemain, et qu'il faut ramener dans la légalité républicaine. Vous avez les collaborateurs et le risque d'une épuration violente, non canalisée, risque de vengeance généralisée.
Qui n'a pas toujours été évité.
Qui n'a pas toujours été évité, mais qui a été quand même...
Jugulé.
Bien canalisé par le général de Gaulle et le gouvernement. Parfois d'ailleurs au prix de décisions très très difficiles à prendre d'un point de vue humain. Je me souviens d'une anecdote concernant la rencontre de Mauriac avec le général de Gaulle à propos de la grâce
de Brasillac,
ouais, que le général de Gaulle refuse et que Mauriac ne comprend pas. Il a raconté à son fils que ce jour-là, c'est la première fois qu'il rencontrait le général de Gaulle, il avait rencontré un cormoran qui lui parlait cormoran. Voilà. Il a eu l'impression de
En même temps, le général n'avait pas été d'une franchise totale ce jour-là, puisqu'il a dit à Mauriac, bien sûr qu'on ne fusillera pas Brasillac. Moyennant quoi, il a été fusillé.
Il a été fusillé, donc il y a tout n'est pas idyllique dans cette période,
sûr.
Mais il est confronté avec ce que moi j'appelle le tragique de l'histoire. C'est-à-dire il y a pas de bonne décision, mais il faut en prendre, sinon on risque la guerre civile. Vous l'avez dit aussi, la guerre n'est pas terminée. Et puis il y a le retour des partis. Vous connaissez cette anecdote que j'aime beaucoup. Général de Gaulle recevant Édouard Herriot, président du Parti radical. Et il dit, mon cher président, venez donc avec moi dans le gouvernement reconstruire la France. Et Édouard Herriot lui dit, mon général, je le voudrais bien, mais je dois d'abord reconstruire le Parti radical. Et on voit revenir les anciennes habitudes. Vous avez parlé tout à l'heure du Conseil national de la Résistance. Il faut quand même se souvenir que c'est le général de Gaulle qui a demandé à Jean Moulin, qui était le concepteur de cette idée, mais qui lui a demandé de réunir tous les mouvements de résistance.
Parce qu'ils étaient spontanés, voilà. Tous ces mouvements. Ils étaient nés chacun dans son coin.
Mais non seulement spontanés, mais rivaux, concurrents.
Bien sûr.
Des communistes, des gens de droite. Chacun voulait son autonomie, son indépendance totale. Jean Moulin les rassemble, les réunifie et crée le Conseil national de la résistance, ainsi que le comité des études qui va faire le programme du Conseil national de la résistance. C'est faire revenir les partis de la Troisième République autour de la table. Donc c'est voulu, ça s'est fait sous l'autorité du général de Gaulle, mais évidemment, dès que la libération est accomplie, les partis veulent revenir à leurs anciennes habitudes. Et l'erreur du général de Gaulle à cette époque-là, qu'il ne refera pas en 58, c'est d'avoir accepté l'idée d'une assemblée constituante, au lieu de proposer lui-même avec une commission comme il l'a fait en 1958, une constitution à l'approbation du peuple français. Quand vous faites une constituante, c'est une constante dans l'histoire de tous les pays, vous mettez les partis en mesure d'écrire la constitution qui leur convient. Et forcément, les partis vont naturellement vers le régime d'assemblée.
Oui,
a fortiori dans un pays comme la France, où la hantise à l'époque des partis républicains, c'est le césarisme. Voilà, c'est le césarisme, c'est le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le début de la Troisième République où il faut trancher entre le pouvoir du président de la République, en l'occurrence le maréchal de MacMahon, et le pouvoir de l'Assemblée. Et finalement, la Troisième République bascule dans le régime d'Assemblée. Après, il y a le souvenir évidemment très très frais de Vichy, les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, et pour les partis, le général de Gaulle pourrait représenter un risque de césarisme. Donc les partis sont évidemment très tentés par le régime d'assemblée. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont reproduire ce qu'ils ont toujours fait.
Et De Gaulle leur dit, bien, puisque c'est ainsi, ce sera sans moi. Au revoir, messieurs. Et donc, il tire sa révérence en janvier 46. Et très peu de temps après, quelques semaines plus tard, il va formaliser sa conception de du régime idéal. Ce sera le fameux discours de Bayeux, où on remet l'exécutif au premier plan.
Absolument. En fait, à Bayeux, il explique ce qu'a toujours été sa conception du pouvoir, surtout après sa propre expérience de la Troisième République, d'un pouvoir faible, lui qui est quand même très imprégné d'une conception à la fois monarchique de la France et du rôle du chef. Hein, ce qu'il écrit dans Le Fil de l'épée, c'est pour lui l'autorité, le pouvoir est quelque chose de vertical. Il doit s'incarner dans une figure qui en assume la responsabilité. Il faut que la nation ait un chef. Bon, faute d'avoir eu un chef, elle a été conduite au pire des désastres. Donc c'est ça qui va expliquer à Bayeux, même si le discours de Bayeux n'est pas la prémonition de ce que sera tout à fait la Ve République.
Non, c'est pas tout à fait ça, voilà. Mais enfin, on n'en est pas très loin.
Mais voyez, la rupture, enfin, c'est que il remet le pouvoir exécutif au cœur, au-dessus. Dans l'architecture institutionnelle, contre la tradition de la Troisième République et de ce qui est en train de s'organiser pour la Quatrième.
Non seulement la classe politique n'en veut pas, mais l'opinion publique reste assez peu réceptive à cette idée. Ça va être, le général s'imaginait sans doute qu'il reviendrait au pouvoir assez vite.
C'est par tous les témoignages qu'il allait revenir très vite.
Et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. Nous entrons dans ce qu'on appellera la traversée du désert.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées, la voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie 100 sous.
L'hommage de Gilbert Bécaud à Charles de Gaulle en 1965. On écoutait « Tu le regretteras » sur Europe 1. Le général de Gaulle est au cœur de l'histoire cet après-midi. Franck Ferrand, vous recevez le député Henri Guénaud qui publie un recueil de citations avec la fondation Charles de Gaulle. De Gaulle au présent aux éditions Cherche Midi.
Et cette voix du général de Gaulle, on l'entend en feuilletant l'ouvrage d'Henri Guénaud. De Gaulle au présent, ce sont des extraits de discours, des extraits de conférences de presse, des mémoires du général, etc. Il y a vraiment, on est là, on l'entend parler, une sorte de neurasthénie coule un peu partout, même parmi les jeunes, dit-il notamment à Vanves en mars 1951. Nous étions tellement habitués à être un grand peuple, une grande nation de père en fils, que tout à coup, la sensation que nous serions réduits à pas grand-chose nous a écrasés les uns et les autres. Eh bien, à mon sens, et tout en mesurant parfaitement tout ce que nous avons perdu, je crois que cette neurasthénie est une sottise, disait le général de Gaulle. Il le dit en 1951, à une époque où, disais-je moi de mon côté, les Français ont tendance à moins l'écouter qu'avant. Henri Guénaud, vous n'étiez pas tout à fait d'accord?
Non, je vous dis, en 46, l'opinion ne l'a pas suivi. C'est pas tout à fait vrai. En 46, d'abord, nous sommes dans un pays épuisé par la guerre, épuisé économiquement, déchiré.
Le rationnement, etc.
Il y a le rationnement. C'est un pays qui sort quand même de 5 ans d'épreuves terribles, à la fois matérielles et morales. Et puis, ce dont va se rendre compte le général de Gaulle très vite, c'est que, en réalité, entre lui et le peuple, il y a ce qu'on appelle les corps intermédiaires, ce que lui appelait les féodalités. La preuve que le lien avec l'opinion n'est pas du tout rompu, c'est qu'il va créer un parti qui s'appellera le RPF, qui va avoir d'abord, dans les premières années, un immense succès. Oui. Mais en 1946, il n'a pas de parti et les corps intermédiaires font écran entre lui et le peuple. C'est une expérience dont il gardera toujours le souvenir. Il va toujours, ce qu'il va chercher à faire avec les institutions de la Ve République, c'est de passer par-dessus ces corps intermédiaires. Il a besoin d'un contact direct avec le peuple. Voilà. Et je crois que ce qui se passe à ce moment-là est absolument décisif pour la suite. Alors, il va créer ce parti, le RPF, qui va avoir, encore une fois, un immense succès.
Succès tel que certains des élus de ce nouveau parti vont finir par s'opposer aux directives du général de Gaulle.
Oui, alors le général de Gaulle, évidemment, mal à l'aise dans son rôle de chef de parti. Et la logique institutionnelle va l'emporter. Et la logique, c'est celle des partis, c'est celle des alliances, c'est celle des combinaisons. Et cette logique sera tellement plus forte et il sera tellement mal à l'aise dans son rôle de chef de parti qu'il préférera s'aborder le RPF et attendre que les circonstances éventuellement le rappellent au pouvoir. Et dès qu'il y sera, la première chose qu'il fera, ce sera de changer les institutions de façon à ne plus être prisonnier des corps intermédiaires, à ce que ceux-ci ne fassent plus écran entre le souverain et le peuple.
Et oui.
Et c'est ça la Ve République.
La notion de souveraineté, on s'en rend compte en lisant tous ces extraits de discours, la notion de souveraineté est au cœur de cette pensée gaulliste. Alors ce que je dis là, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais il faut le rappeler quand même, c'est la base même, la souveraineté, l'indépendance.
Ce sont deux choses d'ailleurs qu'il faut distinguer. Dans le gaullisme, il y a la souveraineté du peuple. La souveraineté de la nation, la souveraineté du peuple, ça, c'est l'idée que la collectivité nationale écrit sa propre histoire, prend son destin en main, et c'est elle qui décide. Ça renvoie à cette idée aussi du rapport entre le souverain, enfin celui qui l'incarne, et le peuple. Et puis il y a l'indépendance nationale. L'indépendance nationale, c'est l'indépendance de cette nation par rapport aux autres nations. Mais ce sont deux choses différentes. Le gaullisme, c'est la souveraineté populaire et l'indépendance nationale.
Ce qui n'exclut pas des alliances européennes. Il dit « Dans le domaine politique, il s'agit que sans renier notre amitié américaine, nous nous comportions en Européens que nous sommes et qu'en cette qualité, nous nous appliquions à rétablir d'un bout à l'autre de notre continent un équilibre fondé sur l'entente et la coopération de tous les peuples qui y vivent comme nous. »
C'est une entente et coopération. À aucun moment il n'y a l'idée de former, il le dira d'ailleurs, un seul pays. Il dira ironiquement d'ailleurs à Michel Droit, entre les deux tours des présidentielles en 65, qui lui demandait « Mon général, êtes-vous européen ?» Et il répondra « Évidemment, je suis français. » La France est en Europe, par conséquent, je suis européen. Et puis, il y a chez lui cette volonté de défendre une forme de civilisation aussi, et il pense que l'union de l'Europe est nécessaire pour la défense de cette civilisation. Mais en aucun cas, il pense que l'Europe forme un seul peuple et une seule nation, et que c'est une erreur de ne pas faire partir la politique de ces réalités-là, que sont les nations, les cultures, les identités, l'histoire et la géographie.
Voilà. J'avais, Henri Guénaud, choisi une quinzaine d'extraits de ces discours que vous nous proposez, mais je me dis que plutôt que de les lire, le mieux c'est d'entendre le général de Gaulle. Ça, c'était une conférence de presse en 1967, et voilà ce que ça donnait sur l'antenne à l'époque d'Europe numéro 1. On y parle d'un sujet passionnant, un peu oublié aujourd'hui, qui était une des marottes, si je puis dire, de la fin du mandat du général de Gaulle dans la fin des années 60, c'est la participation.
La participation change la condition de l'homme au milieu de la civilisation moderne. Dès lors que des gens se mettent ensemble pour une œuvre économique commune, par exemple pour faire marcher une industrie, en apportant soit les capitaux nécessaires, soit la capacité de direction, de gestion et de technique, soit le travail, il s'agit que tous forment ensemble une société où tous aient intérêt à son rendement et à son bon fonctionnement, est un intérêt direct. Ça implique que soit attribué de par la loi à chacun une part de ce que l'affaire gagne et de ce qu'elle investit en elle-même grâce à ses gains. Si une révolution c'est des exhibitions et des tumultes, bruyants, scandaleux et pour finir sanglants. Alors non, la participation, c'est pas une révolution.
C'est assez fascinant ce qu'on entend là et on se dit avec le recul que c'était peut-être la fameuse troisième voie qu'on cherchait tant de partis politiques entre libéralisme et socialisme, si je puis dire. C'était cette participation.
C'est ce qu'a toujours cherché le gaullisme, le général de Gaulle. C'est récuser les excès du capitalisme, du libéralisme et les excès du socialisme et trouver entre les deux une voie qui préserve une certaine idée de l'homme. Alors c'est une expression qui mériterait d'être discutée longtemps, mais quand même c'est bien de cela dont il s'agit. Et il y a quelque chose de très important dans cette affaire. Le général de Gaulle regarde toujours loin devant. Il regarde toujours vers l'avenir. C'est pas du tout un nostalgique. Il a pas la nostalgie de la grandeur de la France. Il a la volonté dans le monde, comme il dit, dans le monde tel qu'il est, parmi les autres tels qu'ils sont, de la restaurer. Il dit la France doit se tenir droite et viser haut. Voilà, ça, l'idée de grandeur dans le monde tel qu'il est, au fond, c'est ce qui résume le mieux le gaullisme, toujours tourné vers l'avenir, toujours tourné vers la transgression, l'invention par les Français eux-mêmes, par la nation française, de son propre destin.
De Gaulle au présent, des textes choisis et présentés par Henri Guénaud, c'est au Cherche Midi dans la collection Documents avec la Fondation Charles de Gaulle.
On vous retrouve dans un court instant sur Europe 1 et Franck Ferrand vous répondra à la question de l'or sur les origines mythologiques de l'expression tombée de Charybde dans Scylla.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et cet après-midi, Franck Ferrand vous répondait à la question de l'or qui, via la page Facebook de l'émission, vous demande de revenir sur les origines mythologiques de l'expression tombée de Charybde dans Scylla.
Alors l'expression elle-même, elle vient d'une fable de La Fontaine, la vieille et les deux servantes qui dit les filles tombées par là de Charybde dans Scylla. Donc là, l'expression, elle est là. Mais Charybde et Scylla, c'était des monstres marins, des monstres de la mythologie grecque qui ont donné leur nom. D'un côté, pour ce qui est de Charybde, à un tourbillon du détroit de Messine, vous savez, entre la botte de la pointe de la botte de l'Italie et la Sicile, là il y a le détroit de Messine, eh bien il y a un tourbillon que les marins ont tendance à vouloir éviter, et en évitant Charybde, ils tombaient sur un rocher extrêmement dangereux qui s'appelle Scylla. Quand on est là-bas au détroit de Messine, on les voit d'ailleurs. Et tomber de Charybde dans Scylla, eh bien c'est tomber en voulant éviter un danger dans un danger plus grand encore.